IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes en Ile-de-France, à écouter en FM sur 98.00, en DAB+, sur toute l'Ile-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Aujourd'hui, mardi 15 octobre, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce la rediffusion de l'émission du 13 février 2023 dédiée à Gérard Maury, interviewé à l'occasion par Paul Nathan dans l'économie en direct. Gérard Maury, figure d'Enghien-les-Bains, président du tribunal de commerce de Pontoise, fondateur de l'APESA 95, médiateur du département du Val-d'Oise, est décédé. L'occasion pour nous, à travers cette rediffusion, de revivre des instants précieux avec lui. Nos pensées amicales vont vers son épouse Dani et ses enfants.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Paul Nathan au micro de Radio IDFM avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue à tous qui nous écoutez sur Radio IDFM. Merci d'avoir choisi notre antenne et d'être fidèle au rendez-vous. Aujourd'hui, au sommaire de l'économie en direct, nous avons j'ai le privilège d'accueillir Gérard Maury, à qui sera consacrée toute cette émission, qui est une émission spéciale. Donc, bonjour Gérard Maury.
Oui, bonjour Paul. Et bonjour Francky.
Gérard Maury, vous êtes président honoraire du tribunal de commerce de Pontoise et actuellement président de l'APESA. Et nous allons aujourd'hui en parler longuement. Mais avant, on va faire un petit retour en arrière sur toute cette carrière et tout ce que vous faites. Donc nous avons largement de quoi échanger ce matin. Vous avez fait votre carrière chez un pétrolier bien connu et qui a eu et vous avez traversé plusieurs reprises. Donc la gestion du changement au sein des grands groupes, vous connaissez. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà les leçons que vous en avez retirées?
Alors d'abord, la carrière chez un pétrolier bien connu, c'est très réducteur parce qu'en fait, il y en a eu cinq. Le premier, c'était Antar, c'était mon premier job. Et Antar a été racheté par Elf. Donc je me suis retrouvé chez Elf Aquitaine. Ensuite, il y a eu des restructurations et j'ai choisi de démissionner à la suite d'un événement familial dramatique qui m'est arrivé pendant que j'étais en poste à Lyon. Ma femme est décédée et donc ça m'a donné l'occasion de tourner une page et de rentrer comme directeur général d'un autre groupe pétrolier qui s'appelait Avia à l'époque. Et puis Avia a été racheté par Elf. Donc, je me suis retrouvé chez Elf, et puis Elf a été, cerise sur le gâteau, racheté par Total Fina, et donc je me suis retrouvé chez Total Fina Elf. Voilà pour le parcours. Donc, effectivement, le changement, ça me connaît. Les enseignements qu'on peut en tirer, c'est que quand on quitte une société, il vaut mieux la quitter en bon terme, parce qu'on sait jamais si quelques années plus tard, on va pas se retrouver au sein de la même société. Voilà.
Ça, c'est clair qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, sachant que, si je me rappelle bien, Antar, pour les plus anciens, c'était le petit Gaulois qui était l'emblème de Antar.
Tout à fait, et les murs en diamant sur les stations-service.
Donc, effectivement, c'est toute une page d'histoire qu'on retrouve des fois dans certains vieux films, où on voit, je trouve toujours ça très intéressant de voir l'évolution des choses dans le temps et certains vieux films avec Lino Ventura ou autres nous permettent de retracer toutes ces marques, parce que c'est aussi des marques qui ont jalonné la vie des plus anciens.
Et Antar avait une position très forte en lubrifiant, en particulier dans le domaine agricole, et je crois qu'aujourd'hui, les lubrifiants Antar existent toujours pour les machines agricoles.
Oui, puis il y avait Antargaz aussi, non?
Alors Antargaz, c'est autre chose, c'est sorti du groupe à la fin des années 90.
Ah oui, donc là, il faut que j'actualise mes connaissances.
Voilà, Antargaz, ça n'a plus rien à voir avec Antargaz qui était dans le groupe Alpha Aquitaine.
Donc voilà, donc ça après, effectivement, sur toute la partie changement, quand on se retrouve passé d'une structure à l'autre, c'est des procédures différentes, c'est des modes de fonctionnement différents, c'est des stratégies différentes.
Tout à fait, oui.
Et c'est vrai qu'il faut réussir à naviguer entre tout ça. Après, ou parallèlement, je sais pas, à Total, vous êtes rentré au tribunal en tant que juge consulaire. Donc ça s'est passé dans quelle année? Vous étiez encore chez Total, probablement, puisqu'il faut être encore en exercice au moment où on devient juge.
C'est 2003, où Total avait donc racheté, à la fin des années 90, Elf, et l'année d'avant avait racheté Fina, mais sans opérer de restructuration. Évidemment, parce que Total licencie, ça aurait été très mal vu par le gouvernement de l'époque. Donc, on a accumulé les mêmes personnes ou des personnes issues. Donc voilà, exprimé comme ça, ce sera mieux. Des personnes issues de Total, de Fina et Elf qui se retrouvaient sur le même poste. Et donc, il a bien fallu à un moment ou à un autre
faire des arbitrages.
Voilà, que Total, dans sa grande sagesse, décide, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces doublons ou de ces triplons, si je peux employer ce néologisme. Et donc, Total a décidé de faire un plan social, qui était un plan très généreux, et a mis tout un tas de gens volontairement en pré-retraite. Et moi, issu de Antar et d'Elf, c'est vrai que j'étais pas obligatoirement très à l'aise dans la nouvelle structure Total, parce que le rapport avec le client, le rapport avec les procédures n'était plus le même.
Oui, et puis c'est un problème de culture d'entreprise,
en fait. Bien sûr, et c'est très important. Tous les gens qui étaient issus de Elf avaient une très forte reconnaissance envers leur entreprise.
Oui, il y a la notion de culture d'entreprise, et il y a la notion aussi de valeur et d'alignement de valeur sur toute une série de choses qui font que, à un moment, on se sent bien ou moins bien dans une structure.
Et donc, j'ai choisi de prendre cette pré-retraite. Je l'ai pas prise au moment où je le souhaitais, puisque le PDG m'a demandé de rester 18 mois pour pouvoir mettre une nouvelle structure en place. À l'époque, j'étais directeur commercial de toute la partie des lubrifiants Elfortar.
D'accord.
Voilà.
Donc, du coup, rentré au tribunal.
Alors, du coup, j'étais officiellement encore en activité, puisque étant en pré-retraite, donc j'ai pu postuler pour entrer au tribunal de commerce. J'ai été élu, et ensuite, j'ai fait la carrière que vous connaissez au sein de ce tribunal.
Alors, la carrière que je connais, mais tout le monde ne connaît pas forcément votre carrière.
Alors, on va en parler.
Donc, et avant, on va expliquer aussi peut-être que vous n'êtes pas parti de rien en termes de connaissances en droit.
Alors, je croyais que vous alliez dire que vous n'êtes pas parti de rien en quittant Total. Non, non, alors effectivement...
Alors, je peux même vous dire ce que disait Pierre Dac en la matière. Je suis parti de rien pour arriver à pas grand-chose. Mais c'est pas votre cas.
Non, c'est pas mon cas. Heureusement, ça s'est relativement bien passé. Et donc, si je comprends bien le sens de votre question, en fait, c'est sur mes études juridiques que vous voulez venir. Donc, j'ai fait une licence en droit privé à Aix-en-Provence et une maîtrise toujours au sein de la faculté d'Aix-en-Provence dans une discipline qui venait d'être créé, qui était le droit des affaires. Et donc, j'ai une maîtrise de droit des affaires délivrée par la fac de droit d'Aix-en-Provence.
Donc, Ça peut aider, même si c'était un certain nombre d'années avant, mais ce qu'on apprend quand on a 20 ans, on a du mal à l'oublier quand même.
Non, objectivement, Paul, mes études juridiques ne m'ont jamais servi dans quoi que ce soit. Ça m'a permis d'être embauché comme cadre chez Antar, ce qui est quand même très intéressant. Et puis ensuite, c'est vrai, quand je suis arrivé au tribunal de commerce, ça m'a permis de savoir où il fallait chercher les informations dont j'avais besoin. Mais le dire que le droit commercial des années 70, non des années 60, puisque je suis rentré en fac en 65, et le droit commercial des années 2000, ça n'avait plus rien à voir. Hein.
Bon, alors, je suis déçu, Gérard Maury. Bon,
pourquoi?
Parce que je considérais que un contrat, on va utiliser des gros mots, un contrat synalagmatique, qu'on voit quand on est étudiant et qu'on revoit quand on intègre le tribunal de commerce, bah ça a pas fondamentalement évolué, et entre le code Napoléon et le code civil, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont quand même restées les fondamentaux.
Je vais vous faire plaisir. Effectivement, les bases sont restées les mêmes, mais ça a tellement évolué que si on ne se remet pas à jour perpétuellement, on est très vite dépassé. Mais donc pour abonder dans le sens dans lequel vous voulez me faire aller, c'est vrai que mes études juridiques m'ont quand même servi quelque part. Mais je considère très sérieusement qu'on n'est pas obligé d'être un juriste pour faire un bon juge consulaire.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de formation qui est faite justement entre l'évolution des textes et donner les bases juridiques à tout nouveau juge. Donc, vous avez été juge au tribunal pendant 17 ans, dont 8 en tant que président, c'est ça?
Oui, c'est à peu près ça, parce que je sais jamais si c'est 17 ans, 16 ans ou 18 ans. J'arrive pas à me souvenir de ça.
Bon, 17 ans, j'ai vérifié.
Vous avez vérifié, donc c'est parfait, 17 ans.
Dont 8 en tant que président.
Ouais, ça c'est sûr.
Les grandes leçons, là aussi, que vous en avez retenues, par rapport à tout ce que vous avez pu voir passer comme cas de figure, que ça soit aussi bien en matière de contentieux entre les entreprises ou en matière de procédures collectives.
Alors, il y a une première leçon qui me paraît évidente, c'est qu'on ne peut pas gérer un tribunal de commerce comme on gère une entreprise. Il n'y a pas de notion de hiérarchie. Donc, vous ne pouvez pas commander. Ça me paraît totalement impossible. Ça veut dire que si vous voulez que vos juges vous suivent dans l'organisation du tribunal, il faut les faire adhérer. Et donc ça veut dire qu'il faut passer du temps, avoir de l'empathie et faire adhérer vos juges au projet d'organisation ou au projet de structure que vous avez.
Puisque les juges sont des professionnels de l'entreprise et donc sont bénévoles.
Bien sûr. Il n'y a pas de notion de hiérarchie comme dans l'entreprise. Ce sont les juges du tribunal étaient mes collègues, ils n'étaient pas mes employés ou mes salariés. Donc si je voulais obtenir une adhésion, il fallait en discuter, en parler. Ça me paraît encore, 3 ans après, une évidence.
Bien. Eh ben, sur ces bonnes paroles, nous allons marquer une première pause musicale. Et puis après, on enchaînera sur votre réflexion, la réflexion que vous avez eue en tant que président du tribunal de commerce qui vous a amené à créer l'APESA sur lequel nous reviendrons.
Voilà, il faudra alors parler quand même des procédures collectives et
on
peut-être
en parlera
de la prévention
dans ce cas-là.
Aussi.
On va en parler dans ce cadre-là. Merci, à tout de suite.
Les cris dans l'appart ont tué les messes basses. Ces violences, ça prend tout l'espace. T'as mis le feu dans mon cœur, tu me laisses là. Mais je sais pas, marcher sur les braises, moi, pars pas. Ne claque pas la porte, ne fais pas ça. Je suis pas aussi forte que tu le crois, moi. Comme je me comporte, c'est juste une façade qui s'efface là. J'aurais jamais pensé devenir un problème. Moi, j'aurais dû t'écrire des milliers de poèmes. Je veux pas garder partir, là, ça seul que ma peau aime. Mais qu'est-ce que c'est crade quand s'écrasent nos fantasmes. Tu m'abandonnes quand je veux qu'on s'abandonne. Ouais. Quelques heures pour se donner du love. Tu m'abandonnes quand je veux qu'on s'abandonne. J'ai le cœur en enfer. Elle m'a dit tu paries que je parie que tout s'arrête. T'avais promis de changer mais t'es pareil. Elle m'a dit tu fais que parler, tu fais dans la paresse. Avant tu sais de tenter tes palettes. T'aimes ça? Travailler, travailler, elle dit t'aimes ça. J'cavale, cavale, j'suis derrière toi. Elle dit ouais j'pars. Mais qu'est-ce que c'est crade quand s'écrase nos fantasmes. Tu m'abandonnes quand j'veux qu'on s'abandonne. Ouais. Quelques heures pour se donner du love. J'ai le cœur en enfer. Tu m'abandonnes quand je veux qu'on s'abandonne. Quelques heures pour se redonner du love. Tu m'abandonnes quand je veux qu'on s'abandonne. Je m'étends qui j'étais à tes côtés. Tu m'abandonnes quand je veux qu'on s'abandonne. Ouais. Quelques heures pour se redonner du love. Tu m'abandonnes quand je veux qu'on s'abandonne. Ouais. Je m'étends qui j'étais à tes côtés. Tu m'abandonnes quand je veux qu'on s'abandonne. Ouais. Quelques heures pour se redonner du love.
Nous sommes toujours avec Gérard Maury, président de la PESA. Je ne donne pas les autres titres. Et nous allons reprendre sur la partie du tribunal qui vous a amené à créer la PESA. Donc, en fait, la PESA, vous me corrigez si je me trompe, découle directement d'une réflexion que vous avez pu avoir sur les procédures collectives et donc sur ce qu'on communément on appelle la notion de dépôt de bilan. Donc, avant de rentrer dans la PESA, est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion de dépôt de bilan et qu'est-ce qu'on entend par là?
Oui, j'allais dire volontiers. Non, c'est pas volontiers parce que c'est dramatique. Simplement, ce que je veux préciser ici, c'est que je ne m'exprime pas en tant que président ou ancien président du tribunal de commerce, puisque je n'ai plus aucune légitimité pour parler au nom du tribunal de commerce.
Là, je vous demande juste de parler en tant que technicien, voilà. Juste pour expliquer peu plus en quoi ça consiste, de manière à ce que, quand on parle de dépôt de bilan, c'est un terme générique et finalement, ça recouvre plein de choses.
Donc, on va un petit peu détailler les procédures collectives, et puis je pense qu'on parlera quelque part de prévention, donc on parlera à ce moment-là des procédures amiables.
Hein? Volontiers.
Donc, on va rester sur la notion de dépôt de bilan. Ok. Donc, il y a trois procédures sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur 100 procédures qui sont ouvertes, il doit y avoir aujourd'hui à peu près 90% de liquidation judiciaire. Le reste étant réparti de façon très inégale entre la sauvegarde et le redressement judiciaire. La sauvegarde, qui est une procédure qui remonte aux années 1995, si mes souvenirs sont bons, ou 2005. L'histoire me joue des tours.
Non, c'est là, plutôt. Je ne serais pas capable de vous donner la réponse.
Non. C'est 2005. Donc 2005, c'est la loi Perben qui a créé la sauvegarde, et c'est une procédure qui malheureusement est encore pas assez utilisée parce qu'elle permet, en saisissant le tribunal très en amont des difficultés, d'avoir plus de chances d'arriver à régler les difficultés. Elle a qu'un inconvénient, c'est qu'il ne faut pas être en état de cessation de paiement pour pouvoir demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Si on était en état de cessation de paiement, il restait
état de cessation de paiement, c'est...
C'est quand le... l'actif disponible ne permet plus de faire face au passif exigé et non pas exigible.
Donc exiger ce qu'on doit.
Ce qu'on doit, exactement, ce qu'on doit qui est échu et que malheureusement ou heureusement il faut payer pour, je dis malheureusement pour le débiteur, mais heureusement pour les créanciers.
Donc est-ce que ce que j'ai en caisse, actif disponible, me permet de payer ce que je dois et qui est échu, donc
bien sûr,
qui est immédiatement payable en théorie.
Donc quand on se retrouve malheureusement en état de cessation de paiement, il n'y a plus que deux possibilités. C'est le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Le redressement judiciaire, c'est une procédure qui va permettre pendant un temps de 6 mois ou d'un an maximum d'examiner si la société a encore la capacité de redresser son activité, de faire cesser ses activités, et en étalant ses dettes sur un certain temps dans le cadre d'un plan de continuation, de pouvoir rembourser ses créanciers. Donc ça, c'est le redressement judiciaire. Malheureusement, je vous ai dit qu'on tournait à 90% de liquidation judiciaire, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place non plus pour la réussite des plans de redressement. Et la liquidation judiciaire, c'est ce qu'on appelle trivialement la mort de l'entreprise, puisque l'entreprise est liquidée, ses actifs sont vendus, le personnel est licencié, et la société disparaît lors de la clôture de la procédure.
Donc c'est là qu'il peut y avoir des drames humains au niveau des dirigeants, et qui sont finalement, c'est le travail d'une vie pour un certain nombre d'entre eux qui se trouvent réduites à néant, et c'est là la transition vers la PESA, où il y a eu toute une réflexion qui a été menée au tribunal de commerce de Pontoise, mais aussi dans d'autres tribunaux de France, sur qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre-là. Donc si vous pouviez nous expliquer la genèse autour de cette réflexion.
APESA d'abord, c'est évidemment un sigle, donc il faut dire ce que ça recouvre.
Oui, l'acronyme.
L'acronyme, ça veut dire aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Et vous noterez donc ce que j'ai dit, que j'ai mis l'accent très fortement sur entrepreneur. On ne parle plus de l'entreprise, on parle uniquement de la personne, du chef d'entreprise, de la personne physique, plus la personne morale. Donc la transition, évidemment,
sur la PESA,
était facile entre liquidation judiciaire et APESA. Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'idée de créer, au sein du Val d'Oise et du tribunal de commerce de Pontoise, cette structure, cette association qui s'appelle APESA Val d'Oise, parce qu'un jour, où je présidais l'audience des ouvertures de procédures collectives, j'avais en face de moi un chef d'entreprise, style Chabal, le pilier de rugby que tout le monde connaît. Donc il devait mesurer 2,05 m, peser 120 kilos, une force de la nature. Et donc cet homme, parce que c'est une personne, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que quand on est au sein d'un tribunal, on n'a pas en face de soi des numéros, on a des personnes, on a des individus, des êtres humains faits de chair. Et donc il faut avoir tout le temps dans l'esprit qu'il faut les traiter avec humanité. Et donc ce garçon à qui je demandais d'expliquer comment il en était arrivé à être en état de cessation de paiement, déposer le bilan et demander la liquidation de sa société, il avait préparé un petit document, et malheureusement, là on n'est pas à la télévision, donc je peux pas mimer ce qui s'est passé, mais je vais vous le raconter le plus rapidement possible. Mais c'est la genèse d'APESA, ça explique pourquoi j'ai créé APESA. Donc il a commencé à parler de cette affaire qui était une affaire familiale. Il a parlé de son grand-père, c'était de son arrière-grand-père qui avait créé la société avant la guerre de 14, qui était mort à la suite de maladies qu'il avait attrapées. Je crois qu'il avait été gazé pendant cette période. Donc c'est son grand-père qui a pris la suite, et puis quand son grand-père est décédé, c'est son père qui a pris la suite, et puis quand son père est décédé, c'est lui qui a pris la suite. Sauf que lui, il voulait pas prendre la suite. Il a pris la suite parce que son père est décédé. Mais s'il avait eu le choix, il aurait jamais géré une entreprise. C'était un artiste qui était très doué pour faire de super meubles en bois, mais qui n'était pas doué pour gérer une entreprise. Et donc, au fur et à mesure qu'il me parlait, je sentais l'angoisse qui arrivait chez lui. Et à un moment, il s'est retourné. Il tremblait tant qu'il pouvait. Quand je lui ai demandé de se retourner vers moi, il avait des larmes plein les yeux et il s'est effondré. Donc je suis allé le chercher, je l'ai aidé à se relever avec l'aide du greffier en chef, parce que soulever un mec de 110 kilos, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, d'abord j'ai mal dormi la nuit d'après, mais je me suis dit, tu ne peux pas ignorer la souffrance des gens qui viennent déclarer leur état de cessation de paiement et pour lesquels tu vas prononcer une liquidation judiciaire, c'est-à-dire que tu prononces la mort de leur entreprise. Et j'ai cherché comment faire pour pouvoir apporter une aide à ces gens qui se retrouvaient en état de détresse psychologique.
Et là, vous avez découvert que vous n'étiez pas le seul à faire cette démarche voilà. au niveau des tribunaux de commerce.
Et là, j'ai découvert qu'il y avait deux mecs géniaux qui s'appellent Marc Bignier et qui s'appellent, j'ai oublié son nom, Jean-Louis. Bon, c'est pas
ça
possible.
Ça va revenir.
Qui est le psychologue qui a aidé à créer APESA. Et donc, eux avaient eu la même réflexion que moi, 3 ans auparavant. Donc j'ai été invité à un colloque à Saintes, dans lequel le greffier Marc Bignier, qui a créé APESA...
Oui, à Saintes, parce que c'est le point de départ, c'est le tribunal de commerce de Saintes. Hein.
Voilà, oui, oui. Jean-Louis, c'est Douillard. J'ai retrouvé.
Ouf. Voilà.
Voilà, ouais. Donc en plus, qui est un garçon que j'adore, qui est le psychologue, qui est un psychologue clinicien. Hein. Et donc eux ont créé APESA. Ils organisaient un colloque à Saintes dans lequel ils expliquaient le fonctionnement d'APESA et la structure. Et donc j'ai décidé de me lancer là-dedans. Voilà. Donc quand je suis rentré.
Donc ça, c'est en quelle année la création de l'APESA?
Ça, c'est 2015, le colloque, et la création d'APESA, c'est 5 décembre 2017. Pourquoi?
Pourquoi?
Parce que il faut trouver des sous, je vous expliquerai rapidement après le fonctionnement d'APESA, mais il faut trouver des fonds pour pouvoir payer les psychologues vers lesquels nous allons diriger les chefs d'entreprise en souffrance psychologique.
Donc, avant de rentrer dans ce détail-là, la composition de l'APESA, qui est membre de l'APESA en tant qu'administrateur, en tant que membre tout court, qui a finalement adhère au projet associatif.
Alors, APESA, c'est 8 membres fondateurs. Il faut quand même que je prenne... Je suis désolé, Paul, mais ça va prendre encore un petit peu de temps pour expliquer comment on arrive à trouver de l'argent. Parce que ça, c'est pas toujours simple dans le monde associatif. Et donc, il y a une autre... quand on parlera de prévention tout à l'heure, on va parler d'SOS Entreprises. Et SOS Entreprises est logé dans la Chambre des métiers et de l'artisanat.
On en parlera après.
On va en parler tout à l'heure, mais le déclenchement s'est passé lors d'une réunion d'SOS Entreprises où je parlais de ma volonté de créer APESA, mais en disant que j'avais du mal à trouver de l'argent. Et le président de la Chambre des métiers de l'époque m'a dit « Mais moi, je te donne 5000 euros si ça t'aide à démarrer. » Et partant de là, ça a tout déclenché. Mes visites chez les autres dont je vais parler, donc j'ai dit que les membres fondateurs L'initiateur, on va dire, qui m'a le plus aidé pour le départ, c'est la Chambre des métiers. Mais, bien entendu, il y a la Chambre de commerce et d'industrie du Val-d'Oise, il y a le MEVO, il y a la CPME, les petites et moyennes entreprises, il y a la Fédération française du bâtiment, il y a le département du Val-d'Oise par l'intermédiaire du CEVO, il y a le greffe du tribunal, et il y a l'association des juges du tribunal, et puis il y a un membre de droit qui s'appelle Gérard Maury, qui était le président du tribunal de commerce de l'époque et fondateur de d'APESA. Donc je suis parti avec un budget initial de 8 fois 2, 16 000 euros.
Donc et ça, puis ça, après, ça permet de démarrer.
Et puis après, j'ai fait le tour de mes connaissances et de voir à qui je pouvais demander de faire des dons pour que la structure puisse continuer à fonctionner.
Donc voilà. Aujourd'hui, c'est combien de membres?
Alors aujourd'hui, c'est 8 membres.
Donc toujours les membres fondateurs
qui sont en même temps les membres du conseil d'administration, évidemment. Et puis, il y a des généreux donateurs, parmi lesquels, donc il faut citer les mandataires judiciaires, les administrateurs judiciaires, les commissaires-priseurs, le barreau du Val-d'Oise, qui, ai-je oublié, la compagnie régionale des commissaires aux comptes, la directe, et puis l'agglomération de Cergy-Pontoise.
Et APESA 95 est reconnue d'utilité publique.
Tout à fait, tout à fait.
Nous allons marquer une nouvelle pause avant de rentrer dans le détail du fonctionnement. Un dernier mot?
Et sur APESA, donc si nous avons des auditeurs qui ont envie de faire des dons à APESA, nous pouvons émettre des certificats de déduction fiscale. C'est bon à savoir.
Que ce soit des entreprises ou des personnes physiques.
Voilà, à partir du moment où ils payent des impôts, quoi.
Et donc, entreprise 60% de crédit d'impôt, personne physique 66%.
Oui, exactement.
Donc merci. Nous allons marquer une nouvelle pause. Et après, on rentre dans le vif du sujet de comment fonctionne l'APESA.
Je comprends pas vraiment l'histoire. Je suis trop gentil pour un bonsoir. Pourquoi faut-il être méfiant pour gagner l'intérêt des gens? Dans l'arène, je me suis fait rare, un peu comme un nouveau départ. Adieu la gloire et sa folie. Je m'enfuis, tu me suis. J'oublierai pas d'où je viens, qu'on vivra jamais serein. La mort a pas de promesse, y'a que l'amour qui reste. J'oublierai pas d'où je viens. Je tomberai pas dans le panneau à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, du pays ou du père. Je tomberai pas dans le panneau. Je laisserai personne sur le carreau. La guerre se prend des râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je serai personne sur le carreau. J'ai pas trouvé la solution. J'attends pas la révolution. Mais on change pas le cours de l'histoire en foutant feu pour l'amour de l'art. Qu'est-ce qu'on a fait de ces valeurs? Je marche dessus, moi j'ai pas peur. Comme la fin du meilleur des mondes, un empire qui s'effondre. Je vendrai pas mon âme au diable pour voir personne à ma table. Ignorant de la fable, le démon et les flammes, je vendrai pas mon âme au diable. Je tomberai pas dans le panneau à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, du pays ou du père. Je tomberai pas dans le panneau. Je laisserai personne sur le carreau. La guerre se prend des râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je serai personne sur le carreau. Je tomberai pas dans le panneau. Je tomberai pas dans le panneau. Pour voir personne à ma table. L'ignorant de la fable, le démon et les flammes. Je vendrai pas mon âme au diable. Je tomberai pas dans le panneau à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, où tu brilles ou tu perds. Je tomberai pas dans le panneau. Je laisserai personne sur le carreau. La
galère, c'est grandir à tôt. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je serai personne sur le carreau.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio et nous sommes toujours avec Gérard Maury, président de l'APESA. Donc Gérard, si vous voulez bien, on va rentrer maintenant dans le détail du fonctionnement de l'APESA et en particulier de l'APESA 95.
Merci Paul. Vous savez que je suis intarissable sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me rappeler que le temps passe et qu'il faut peut-être que j'abrège un petit peu.
Mais on a le temps. On va donc, y consacrer le temps qu'il faut parce que c'est important.
Ah, c'est très très important. Donc APESA, j'ai parlé d'APESA Sainte, qui est le géniteur, si je peux employer ce terme. Et donc aujourd'hui, APESA France est un réseau national qui comporte 80 juridictions rattachées, 60 APESA locales qui sont totalement déployées, ça veut dire qu'elles ont passé toutes les phases de création et qu'elles sont capables de venir d'ores et déjà en aide aux chefs d'entreprise qui en ont besoin. Si on revient, peut-être ça peut être intéressant pour vos auditeurs, le nombre de sentinelles, et j'expliquerai après ce que sont les sentinelles, au niveau national, il y en a 3600, donc c'est important. Le nombre de fiches alertes qui ont été créées, on va parler après
oui,
des fiches
alertes.
Oui,
il va falloir nous expliquer tout ça.
Il y en a eu 5000 depuis la création.
Mais je pense qu'il faudra le réexpliquer, redonner les chiffres après, une fois qu'on aura compris à quoi correspond chaque
Et donc au niveau de l'Île-de-France, dont je suis aussi vice-président d'APESA France pour l'Île-de-France, les départements qui ont créé une APESA locale, le Val-d'Oise, bien évidemment, Paris, Versailles, Nanterre, Bobigny, la Seine-et-Marne et Évry. Et donc manque pour l'instant, pour que le maillage
soit complet,
si on peut dire, soit complet, il manque le 94, mais on y arrivera rapidement, je l'espère. Alors, si on revient au niveau d'APESA Val-d'Oise, parce qu'on est dans le Val-d'Oise et quand même c'est ça qui nous intéresse, donc APESA Val-d'Oise, j'ai des chiffres quelque part, il faudrait que j'arrive à les retrouver rapidement.
Mais surtout avant de rentrer dans les chiffres, parce que...
Alors, le fonctionnement.
Le fonctionnement.
D'accord.
Et après, comme ça, on comprendra mieux, derrière chaque élément, les chiffres.
Ok. Alors, le fonctionnement, c'est un chiffre. Je suis désolé, Paul, mais il faut quand même y passer. C'est 51 sentinelles. Alors, à quoi servent les sentinelles?
Donc dans le Val-d'Oise, hein, les 51.
Dans le Val-d'Oise. Là, maintenant, on ne parle plus que du Val-d'Oise. Les sentinelles, ce sont des personnes qui, par leur activité, alors ça peut être les juges du tribunal de commerce, ça peut être des avocats, ça peut être des gens de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers, etc., 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 les experts comptables, faut pas les oublier, les commissaires aux comptes, ce sont des gens qui sont en contact avec, j'ai oublié les mandataires.
Les avocats peut-être aussi.
Les avocats, je crois que j'en ai parlé, qui sont en contact avec des chefs d'entreprise qui, à un moment de leur vie, vont rencontrer des difficultés et vont peut-être se trouver en état de détresse psychologique. Donc ce sont ces sentinelles qui vont avoir, après une formation dans laquelle on leur apprend à reconnaître ou à déceler ou comment aider le chef d'entreprise à dire qu'il va pas bien. Donc ils vont...
Parce que c'est toujours très délicat sur une personne qui est en fragilité de lui faire dire « oui, j'ai besoin d'aide ».
Mais en fait, on s'aperçoit que quand on a un peu d'empathie et d'humanité, on y arrive de façon vraiment très, 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 très facile à faire en sorte que le chef d'entreprise se confie. Il y a une phrase clé qui est, mais au fait, vous, comment allez-vous ? Avec un petit blanc, et en général, la phrase qui suit, je vais pas très bien parce que ma femme est partie ou mon conjoint est parti, je n'ai plus d'amis, j'ai plus de logement, etc., etc., etc. Et donc là, on enchaîne avec ce que APESA va pouvoir apporter. Donc j'ai parlé du sentinelle, il faut parler des psychologues aussi. Donc il y a un réseau de psychologues dans le Val-d'Oise, aujourd'hui nous avons 13 psychologues dont l'activité est dédiée à APESA dans le Val-d'Oise. C'est-à-dire que pour eux, APESA est une priorité, ils le traitent avant parce qu'il y a urgence. En général, quand on repère une détresse psychologique chez un chef d'entreprise, il ne faut pas trop tarder, il faut agir le plus rapidement possible. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Alors attendez, donc là, c'est les deux acteurs, sentinelle d'un côté,
et psychologue. Mais il n'y a pas de lien entre les deux.
Il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, comment se fait la communication de l'information, l'appel, etc.
Oui, mais mon cher Paul, si vous ne me laissez pas expliquer, on ne va pas pouvoir y arriver.
Je me tais.
Donc, les sentinelles vont créer, numériquement parlant, ce qu'on appelle une fiche alerte. Et la fiche alerte, elle va recenser le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, internet, etc., etc. Et les signes qui justifient le repérage de la détresse psychologique. Tout ça, ça se fait bien entendu en discussion, en tête-à-tête ou au téléphone. Malheureusement, je suis obligé aujourd'hui de faire des entretiens téléphoniques parce que ce sont des gens avec lesquels je ne peux pas avoir de contact différemment. Et donc, en posant un certain nombre de questions, on va s'apercevoir qu'ils ont perdu leurs amis, que leur conjoint est parti, qu'ils n'ont plus personne pour les aider, ils n'ont plus personne. Et donc, on va créer cette fiche alerte qui va être envoyée à un centre de traitement qui, si mes souvenirs sont bons, doit être basé à Nantes, qui, lui, va, par l'intermédiaire d'un psychologue qui appartient à ce centre de traitement, rappeler le chef d'entreprise, parler avec lui, et en fonction de ce qui va se passer au cours de cet entretien, l'orienter vers un psychologue clinicien. Alors on parle bien de psychologue, on ne parle pas de médicaments, on ne parle pas de psychiatre. Pourquoi ? Parce que ce dont ces chefs d'entreprise ont besoin, c'est de pouvoir parler, de pouvoir être écoutés, parce qu'ils n'ont plus personne avec qui ils peuvent discuter. Et le résultat, c'est qu'ils accumulent à l'intérieur d'eux-mêmes la souffrance qu'ils ne peuvent plus extérioriser. Et donc, le plus d'APESA, c'est de pouvoir offrir à ces chefs d'entreprise qui souvent, en plus de la détresse psychologique, sont dans une détresse financière, donc de pouvoir leur offrir gracieusement, gratuitement, 5 heures d'écoute avec un psychologue.
Et là, en fait, c'est eux qui appellent le psychologue ou le psychologue qui les appelle et qui leur propose finalement ?
Pas du tout.
Alors, comment ça se passe ?
Pas du tout. La première condition, quand la sentinelle établit la fiche alerte, c'est d'obtenir le consentement formel du chef d'entreprise.
C'est-à-dire que... De la transmission de la fiche alerte à Nantes, c'est ça ?
De la proposition de lui faire bénéficier des services d'APESA. C'est-à-dire que...
Et donc la fiche alerte ?
Bien sûr.
S'il dit non, pas de fiche alerte.
Pas de fiche alerte. On n'est pas là, et moi je le dis à chaque fois, je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Simplement, je pense que de la discussion que j'ai eue avec vous, j'ai le sentiment que vous avez besoin d'une aide. Et donc voilà ce qu'on peut vous proposer. Mais maintenant, si vous n'êtes pas d'accord et si vous ne voulez pas, bien entendu, moi je n'impose rien.
Et quelle est l'attitude des gens, globalement, quand on fait cette proposition ? Il y a 50-50 entre ceux qui disent oui et ceux qui disent non ? Comment ça se passe ?
C'est 99% qui disent oui, qui l'acceptent. Et sur ces 99%, il y en a 2 ou 3 qui vont dire au psychologue du centre de traitement qui les rappelle, théoriquement, 40 minutes au plus tard, après que la fiche alerte ait été envoyée, Donc ils les rappellent, ils vont leur dire non, finalement j'ai bien réfléchi, j'ai pas besoin d'aide psychologique. Mais il y a très très peu de déchets, si je peux employer ce terme, sur 100 fiches alerte qui sont émises, il doit y avoir 3 ou 4 refus d'accompagnement par la suite.
Donc du coup, après accompagnement par le psychologue...
Alors ça c'est important à le signaler, il y a un premier entretien avec le psychologue, un des psychologues de RMA, donc du centre de traitement, mais par la suite, le centre de traitement va appeler un psychologue qui lui sera chargé de prendre le contact avec le chef d'entreprise.
D'accord.
Le chef d'entreprise n'intervient plus. On va lui proposer, le psychologue, alors qui en principe est désigné parce qu'il est le plus proche du domicile du chef d'entreprise, va lui proposer un rendez-vous. Et par la suite, les rendez-vous vont se dérouler. Alors, il faut quand même que je donne quelques chiffres.
Alors maintenant, on peut donner les chiffres, maintenant qu'on a bien compris comment ça se passait.
Voilà, mais c'est uniquement pour faire plaisir, Paul, que je donne ces chiffres.
Mais moi, j'aime bien pouvoir matérialiser une action.
Donc depuis la création d'APESA, qui a commencé une fois que toutes les formalités juridiques, administratives, bancaires ont été faites, donc on a commencé au mois de mars 2018. Pour une création en décembre 2017. Donc depuis l'origine, nous avons émis 114 fiches alertes. Sur les 114, j'ai fait le calcul parce que je pensais que vous me le demanderiez, il y a eu 6 refus sur les 114. Pas des refus avant l'émission de la fiche alerte, puisque la fiche alerte n'est pas émise, s'il y a refus, mais... Une fois que la fiche alerte était émise, et soit des gens qui ont dit au psychologue qui les rappelait « non, j'en ai plus besoin », soit qui ne sont pas allés au rendez-vous du psychologue.
Donc 5%.
Donc c'est peu. C'est peu. Très peu. Ça prouve que quelque part les sentinelles font à peu près correctement leur boulot. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur les chiffres?
Vous en donner un autre.
Alors, je vais vous en donner un autre. Voilà, en 2022, donc la moyenne, ça tourne plutôt autour de 20 par an. En 2022, il y en a eu 44.
Alors, vous me donnez les chiffres du Val d'Oise. Moi, j'avais, pour préparer cette émission, j'avais regardé les chiffres nationaux et j'avais vu que, en termes de fiches alerte, il y avait eu plus de 6000. Fiche alerte qui avait été envoyée depuis la création des différentes APESA. Alors c'est compliqué d'analyser ce chiffre puisqu'il y a eu des créations au fil de l'eau et tout le monde ne remonte pas à la même date. En même temps, c'est bien la preuve que ça correspond à un vrai besoin au niveau national et donc de ce fait dans le Val d'Oise.
Alors, on va papinailler sur les chiffres. Moi, j'en ai, à la date d'hier, 5723. Mais effectivement, on n'est pas loin de votre arrondi.
Bon, allez.
Mais c'est normal que ça... on mémorise plus.
Et tous les jours, ça bouge, forcément, parce que tous les jours...
Il y a des créations tous les jours, bien sûr.
Et d'ailleurs, sur le site, c'est mis régulièrement à jour, puisque j'avais vu que depuis le début de l'année, mais quand j'ai préparé l'émission, donc ça date de quelques jours...
Ça, je peux vous le donner. 1547 hier soir.
Voilà. Bon. Donc, ça bouge, et malheureusement, ça reflète bien la nécessité de ce type d'accompagnement.
J'ai le chiffre depuis le 1er janvier, 36. Ce qui prouve quand même que il y a bien un besoin quelque part. Mais si on en termine avec APESA, ce que je veux souligner, c'est la détresse du chef d'entreprise. Parce que ces gens-là sont des hommes qui sont faits de chair et de sang, et ils se retrouvent dans une situation qui est une détresse épouvantable, et très 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 souvent, et c'est là que l'APESA est utile, ils n'ont plus personne avec qui parler. Donc ils ont besoin de pouvoir extérioriser leur souffrance, et c'est ça que Capeza apporte. Rapidement, confidentiellement, et avec beaucoup d'humanité.
Alors c'est dur d'enchaîner après ce que vous venez de dire.
Mais on va y arriver.
Mais on va essayer d'y arriver en mettant une note d'optimisme, en disant d'abord on va faire une pause musicale, et après on va parler de tout ce qu'on peut faire pour éviter d'arriver à cette situation-là, et en particulier de la prévention.
Alors mon cher Paul, je n'avais pas la certitude qu'on y arriverait, mais évidemment il y a des moyens d'éviter le dépôt du bilan, et on va en parler après, et ça j'en suis aussi très satisfait.
Donc on va faire une pause musicale, on va rembobiner le film, flashback, avant d'arriver dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Qu'est-ce qu'on peut faire ?
À tout de suite.
T'es pas bien dans la cage qui te serre trop fort. Dans les miroirs opaques, tu ne vois plus tes formes. Sur les sommets de frappe, il a fallu que tu cours. T'as manqué l'héritage et notre dernier recours. T'es pas bien dans la cage qui te sert de corps. Je veux qu'on se tienne, je veux qu'on s'aime. Je veux qu'on t'aime, je veux qu'on se tienne, je veux qu'on s'aime. Le chagrin de passage qui te tient encore. Dans ton visage où rien ne semblait raccord. Sur les silences de train qu'il a fallu que t'aies trop le courage de débattre jusqu'au dernier tour. T'es pas bien dans la cage qui te sort de corps. Je veux qu'on s'aime. Je veux qu'on t'aime, je veux qu'on se tienne, je veux qu'on s'aime. Je veux qu'on t'aime, je veux qu'on se tienne, je veux qu'on s'aime encore.
Nous sommes toujours sur Radio IDFM et merci d'être toujours avec nous. Et nous sommes toujours avec Gérard Maury, président honoraire du tribunal de commerce de Pontoise et président de l'APESA. Donc, Nous avons bien vu comment fonctionnait l'APESA, mais avant de se retrouver dans cette situation, rien n'est inéluctable. Donc, pour ne pas arriver à la liquidation, la prévention est la clé. Donc, nous vous animez aussi, en parallèle de l'APESA, la cellule de prévention à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Donc, si on peut parler un petit peu de prévention et des outils qui existent.
Alors, la prévention. La prévention, effectivement, c'est le moyen le plus important pour essayer d'éviter le dépôt de bilan. Pourquoi ? Parce que ça doit être pris très en amont, au moment où les difficultés commencent à apparaître, et non pas au moment où elles sont irrémédiables et où la situation de l'entreprise est totalement compromise. Et donc, il y a au niveau, alors qui fait de la prévention? D'abord, il faut citer en premier la chambre de prévention du tribunal de commerce, c'est évident. C'est l'endroit où tout est réuni, aussi bien au niveau des procédures que des hommes, pour que les difficultés soient examinées et que les remèdes ou les solutions puissent être apportées. Mais il y a d'autres endroits où on parle de prévention aussi. Vous avez cité la Chambre de commerce et d'industrie, dont je suis membre associé effectivement, et il y a là un garçon qui est un salarié de la Chambre, dont la mission exclusive est d'être en contact avec des entreprises et des chefs d'entreprise qui sont en difficulté, et de voir quelles sont les solutions qu'il peut apporter pour les aider. Donc ça, c'est encore
Deuxième de
commerce, deuxième, la Chambre du commerce et de l'industrie. Il y en a un troisième, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, c'est la cellule qui s'appelle SOS Entreprise, qui est logée au sein de la Chambre des métiers et de l'artisanat, et qui comporte quatre membres, un juge honoraire du tribunal de commerce, un membre de la Chambre des métiers et de l'artisanat, un expert comptable et un avocat.
C'est entièrement dédié aux membres ou aux artisans, ou c'est ouvert à tout le monde?
Alors, c'est ouvert à tout le monde, mais par le logement et la configuration, c'est plutôt un fonds de commerce alimenté par les artisans. Bien sûr, par les membres de la Chambre de métiers.
Mais tout le monde y a accès.
Voilà. Mais n'importe quel chef d'entreprise peut demander à bénéficier des services d'SOS Entreprise. Il y a aussi les centres de prévention, mais il n'y en a pas dans le Val d'Oise. Et puis, il y a la médiation de la Banque de France, les cellules de la préfecture qui s'occupent de prévention, la commission des chefs de services financiers, qui peut aider les entrepreneurs qui ont des difficultés parce qu'ils ont des dettes fiscales et sociales, mais pas autre chose, donc à avoir des reports d'échéance.
Donc du coup, j'allais dire, ces différents intervenants peuvent venir en complémentarité les uns des autres.
Voilà.
Et parce que toute la partie dette fiscale, sociale, c'est quand même quelque chose de très particulier. La médiation du crédit de la Banque de France, c'est encore quelque chose d'assez particulier avec un certain nombre de conditions. Alors que SOS Prévention, la Chambre de Prévention du Tribunal de Commerce ou la CCI, ce sont des généralistes.
Voilà, ce que je voulais dire simplement, c'est que il y a beaucoup d'acteurs qui aident à la prévention des difficultés des entreprises, mais que tous ces acteurs, à un moment, arrivent au bout de leurs possibilités, et donc il faut qu'à ce moment-là, ils les orientent vers le tribunal de commerce. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux procédures amiables totalement confidentielles qui vont, dans 80% des cas, je vous rappelle, j'aime bien les chiffres, même si vous aimez pas que je les cite obligatoirement.
Si, mais au bon moment, pour que les gens aient bien compris.
Dans les dépôts de bilan, 90% de liquidation judiciaire, c'est-à-dire 90% de cessation d'activité complète pour une entreprise. Dans les procédures amiables, 80% de réussite, c'est-à-dire de sauvetage de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que les difficultés sont prises très en amont, donc avant qu'elles soient complètement...
Qu'il soit trop tard.
Trop tard, bien sûr. Ça, c'est la première condition. Et puis ensuite, il y a ces deux procédures qui s'appellent le mandat ad hoc et la conciliation. On ne va pas s'étendre là-dessus, parce que je sais qu'on est un peu bousculé par le temps, et que les experts, que sont les experts comptables et les juges du tribunal de commerce, connaissent parfaitement ces procédures et donc sont à même de les proposer aux chefs d'entreprise en difficulté qui viennent les voir.
Le point sur lequel il faut insister, c'est que toutes ces démarches sont totalement confidentielles, y compris dans cette phase-là, au niveau du tribunal de commerce, en termes de prévention.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un délit de parler de conciliation ou de mandat ad hoc pour une entreprise, comme ça a été le cas pour Conforama, où le journal qui avait dit que Conforama était en conciliation a été condamné à une amende.
Je pense que toute la partie prévention, finalement, c'est un véritable acte de gestion. Et ça s'inscrit aussi dans la logique de la PESA. Finalement, c'est l'accompagnement des chefs d'entreprise, que ça soit en amont au niveau de la prévention ou après quand on est passé en liquidation judiciaire et qu'on est pour reprendre l'acronyme en souffrance aiguë.
Bien sûr.
Mais bien tout sûr. Ça. C'est ne pas laisser le chef d'entreprise seul face à lui-même.
Et toute la difficulté, vous le savez, c'est de repérer les entreprises qui sont en difficulté, parce que souvent, malheureusement, le chef d'entreprise est quelqu'un qui a la tête dans le guidon, c'est une expression qui est vulgaire, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire, qui a pas de visibilité et qui a toujours l'espoir du contrat ou de la commande qui va arriver, qui va sauver son entreprise. Donc il attend, et puis souvent il attend et il est trop tard après. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que l'expert comptable, évidemment, a un rôle très important à jouer là-dedans, parce que théoriquement il est un des premiers à pouvoir repérer les difficultés, au moins financières, de l'entreprise.
Après, c'est la mission et la fréquence d'intervention de l'expert comptable
bien
sur
sûr.
Un dossier qui est déterminé par le client.
Bien sûr.
Ce qui nous fait... Vous avez parlé tout à l'heure de la Banque de France et de la médiation du crédit. Ce qui me permet de montrer une nouvelle facette de Gérard Maury, qui intervient également à la Banque de France. Pouvez-vous nous indiquer dans quel cadre vous intervenez à la Banque de France?
C'est encore là quelque chose qui est symptomatique. J'interviens en tant que personne qualifiée.
Qu'est-ce qu'une personne qualifiée?
Une personne qualifiée, ben, c'est mon ancienneté de président du tribunal de commerce et de juge des procédures collectives qui fait que la préfecture a considéré que j'avais une certaine qualification pour faire partie de la commission de surendettement de la Banque de France. Alors, on a changé de domaine, on ne parle plus d'APESA, on ne parle plus des difficultés des chefs
Absolument.
D'entreprise, on parle des difficultés...
Tout court, des personnes
tout
physiques.
Tout court, des personnes physiques. Et là, comme dans le monde de l'entreprise, on s'aperçoit qu'il y a des situations de détresse qui sont épouvantables, des gens qui, pour des raisons qu'on va appeler accident de la vie, n'arrivent plus à faire face. Alors... Paul, c'est de façon évidente que je laisse de côté les voyous qui organisent leur insolvabilité, ça on n'en parle pas, parce qu'on a les moyens pour les repérer et d'agir dans ce sens-là. Mais on va partir de l'idée que la plupart des particuliers...
99% des gens...
sont des gens honnêtes, comme les entrepreneurs, et qu'ils se retrouvent là parce qu'il y a eu un accident de la vie, le chômage, le décès de quelqu'un, etc., etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus... Alors, c'est la cessation de paiement du particulier. C'est-à-dire qu'avec leurs revenus, ils n'ont plus la possibilité de payer les échéances qui leur sont réclamées pour absorber leurs dettes. Et donc la commission de surendettement va évaluer en fonction, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça mériterait un développement beaucoup plus long, mais va évaluer les possibilités qui sont offertes à ce particulier pour pouvoir faire face à ces échéances. Alors ça va aller de l'étalement de ses dettes sur une période un peu plus longue, de mesures de suspension d'exécution de ses dettes pour pouvoir conserver sa résidence principale, et puis dans certains cas où vraiment on peut pas faire autrement parce qu'il n'y a pas de revenus suffisants, de faire un plan d'étalement de ses dettes avec des mesures d'effacement partiel ou d'effacement total. Mais je voudrais pas qu'on s'attarde trop là-dessus parce que vraiment c'est trop complexe pour le traiter de façon aussi légère et rapide. Est-ce que mais c'est un service. Non, je voudrais juste terminer là-dessus.
Je vous en prie.
C'est un service essentiel qu'on rend là encore, comme on le fait pour les entreprises dans le cadre du tribunal ou des organismes de la prévention. Là, c'est la commission de surendettement qui le fait pour des particuliers. Et je peux vous assurer que la majorité des gens sont des gens honnêtes et qui se trouvent dans des situations dramatiques.
Il y a une notion de montant minimum ou c'est vraiment les gens qui sont en situation dramatique, point barre ?
Non, non, on peut intervenir et ça arrive régulièrement pour des sommes de l'ordre de 3 000 ou 4 000 euros ou 5 000 euros. Hein. Mais on a aussi des montants beaucoup plus importants.
D'accord. Donc là, on voit que vous êtes très orienté sur l'humain. Et ben, on va continuer puisque dans le cadre de l'ensemble de vos mandats, je ne sais pas si on peut parler de mandat, en tout cas en tant que personne qualifiée, vous êtes également médiateur départemental. Donc on va marquer une dernière pause et on va faire la dernière ligne droite sur ce que vous, j'allais dire, les différentes activités que vous avez encore. À tout de suite.
Je me souviens plus de son nom, de ce qu'on a fait la veille. J'ai fouillé au bout du monde. Je suis bien, je poursuis mes rêves.
J'ai pas quoi te dire quand tu me laisses des mots. J'ai rien à promettre ici, tout sonnerait faux.
J'ai voulu jouer comme à chaque fois. Je repense à nous souvent le soir.
Tu me dis reviens avant 9 mois. Est-ce que j'assumerai si loin de toi?
Et on va assumer. Tu sais pourquoi je vais tout tenter. Ne me laisse pas tomber. Besoin de toi pour m'envoler. Andiande, sa mulher. Me diz andiande, sa mulher.
Je vais tout te donner. Depuis ce jour-là, je suis condamné. Tu m'as tellement manqué. Besoin de toi pour m'envoler.
Andiande, sa mulher. Me diz andiande, sa mulher.
Sorry, ma, I didn't know that you were worried. Love him, ma, sorry, ma. On a des souffrances en bête, ma, yeah.
Je veux plonger dans tes yeux. Même si c'est dangereux. On est tellement beaux, nous deux.
J'aimerais revivre cette histoire. Ensemble de Lisbonne à Paris. On va tanguer à bord du navire. Regarde, j'ai le cœur qui chavire. Qui viendra me sauver?
Está
aonde, onde,
por recommencer. Eu vou assumir. Tu sais pourquoi je vais tout tenter. Ne me laisse pas tomber. Besoin de toi pour m'envoler. Andiande, 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 sa mulher. Me diz Andiande, 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 sa mulher.
Je vais tout te donner. Depuis ce jour-là, je suis condamné. Tu m'as tellement manqué. Besoin de toi pour m'envoler.
Andiande, Andiande, dis-moi juste où t'es caché. Me dis Andiande, Andiande,
dis-moi juste où t'es caché. Andiande, 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 sa mulher. Andiande, dis-moi juste où t'es caché.
Vous êtes toujours sur Radio IDFM, toujours avec Gérard Maury. C'est la dernière ligne droite. Merci d'être toujours avec nous. Donc, Gérard Maury, nous en étions à la médiation départementale. Donc là aussi, ce sont pour des personnes physiques.
Alors, ça va finir par être lassant de parler uniquement de moi là-dedans. Hein. Non, alors, pour répondre à votre question...
Non, on parle des autres, on n'arrête pas de parler des autres depuis le début.
Voilà, on parle beaucoup des particuliers et des chefs d'entreprise. Alors, la médiation départementale. Le terme médiation départementale n'est pas bon, Parce qu'en fait, et c'est bien un des soucis, parce que je pense que vous allez me poser une question sur le nombre, puisque vous aimez bien les chiffres, vous aussi.
J'aime bien les chiffres.
Voilà, sur le nombre de médiations effectuées, etc., etc., c'est qu'en fait, je ne suis pas médiateur départemental, je suis médiateur du conseil départemental. Ça fait une différence énorme.
Alors expliquez-nous la différence.
C'est que ma mission n'est pas de régler la totalité des problèmes qui peuvent se poser aux habitants du Val-d'Oise, heureusement, mais de régler ou d'essayer de régler ou de mettre en forme les litiges qui peuvent opposer des usagers du département au service du département.
D'accord. Donc j'ai l'impression de me taper la tête contre les murs dans mes relations avec le département. Je m'adresse à la cellule de médiation.
C'est oui, mais c'est pas encore exactement ça. C'est-à-dire que les litiges vont pouvoir naître de décisions qui sont mal comprises ou de décisions qui tardent à être rendues. Et donc c'est là où je vais intervenir pour essayer d'éclaircir un peu et de comprendre pourquoi l'usager et les services de département en sont arrivés à ce stade de soit d'incompréhension ou soit de mauvaise compréhension.
Bon. Donc du coup vous n'imposez rien.
Alors je n'ai aucun moyen pour imposer quoi que ce soit. C'est-à-dire que là encore. Ma mission, c'est d'essayer d'apporter un petit peu d'équité et d'humanité dans des décisions qui peuvent être prises de façon brutale, mais en respect total de la législation. Alors, vous vouliez savoir...
Des chiffres.
Les chiffres, bien entendu. Donc c'est là où... Et c'est pour ça que j'ai commencé par essayer
de cadrer
un petit peu quelle est ma mission, parce que depuis le début de l'année... alors j'ai été nommé par la présidente du conseil départemental et par l'Assemblée générale des élus en janvier 2022. Donc c'est tout récent, ça fait moins d'un an. Il y a eu 253 saisines du médiateur du département. Mais sur le 253, il y en a à peu près 70% qui ne concernent pas du tout ma mission. C'est des problèmes avec la caisse d'allocation familiale, ce sont des problèmes avec la caisse maladie, ce sont des problèmes avec un bailleur, avec un syndic, avec la police, par exemple, pour des excès de vitesse, pour lesquels je n'ai aucune compétence.
Donc du coup, vous redirigez vers les instances, puisqu'il doit y avoir des médiateurs
bien
aussi.
Bien sûr. Et donc le boulot du médiateur, qui est un boulot parasitaire, je dirais, puisque là, je n'ai aucune possibilité d'intervention, mais je considère quand même que c'est quelque chose d'intéressant pour les particuliers, parce que le particulier lambda est complètement perdu dans les arcanes de l'administration française. Il ne sait plus à qui s'adresser, donc le fait d'appeler le médiateur qu'il a trouvé médiateur départemental, mais qui n'a pas de compétences pour l'aider, le fait que le médiateur départemental puisse l'orienter vers le médiateur de la CAF 95 ou le médiateur de la CPAM ou vers le défenseur des droits ou pour le médiateur de la Fédération des banques, etc., etc. Là, j'ai une réelle utilité parce que j'aide un peu, et c'est toujours dans le même état d'esprit que ce que je faisais dans le cadre d'APESA, j'aide un peu à dégonfler cette incompréhension qui se produit entre un usager et une administration en l'orientant vers le bon service qui va pouvoir l'aider.
En fait, il y a une multitude d'intermédiaires, de facilitateurs, de conciliateurs ou d'associations qui peuvent aider. On le voit depuis le début de cet entretien. Le problème, c'est le faire savoir.
Et le faire savoir, bien sûr.
Et les gens, en fait, face à... Finalement, on peut parler d'offres très importantes, mais on ne la connaît pas.
Voilà. Et c'est exactement le même problème que pour les entreprises. C'est qu'il y a des tas d'aides qui leur sont proposées par la région, par l'État, par le département, mais que ces aides ne sont pas obligatoirement bien connues Et pour les particuliers, c'est pareil. Hein, il y a tout un tas d'aides qui leur sont proposées, mais qui sont pas obligatoirement bien connues, ce qui fait qu'ils en profitent pas ou ils savent pas à qui s'adresser pour les demander. Et donc là, le médiateur du département ou du conseil départemental a une raison d'être.
Donc maintenant, ceux qui nous écoutent viennent d'avoir une information privilégiée, comme quoi ils ont une Gérard Maury qui peut être la solution quand ils se retrouvent confrontés à un problème en particulier avec le département.
Alors, faut pas non plus me noyer parce que je suis pas là pour faire ça normalement, mais c'est vrai que c'est quand même satisfaisant de pouvoir aider quelqu'un à se retrouver dans les arcanes de l'administration française.
Nous avons encore une dernière occupation de Gérard Maury dont il faut parler. Vous êtes administrateur du château de la Roche-Guyon. Donc là, on est après avoir essayé de soulager cette atmosphère un peu lourde avec la liquidation. On était passé à la prévention où effectivement on peut éviter la liquidation, c'est pas inéluctable. On a vu que pour les particuliers aussi, il y avait plein de solutions. Et on termine sur une note d'optimisme avec le château de la Roche-Guyon, qui est à la fois optimisme et culture.
Et culturel, oui. Alors, c'est un EPCC, hein, c'est un établissement public de culturel, de coopération culturelle. Et alors, c'est un château qui est magnifique.
Moi, et qui est dans le Val d'Oise.
Et qui est dans le Val d'Oise, évidemment. Et alors, pour votre information, mon cher Paul, qui est le monument le plus visité du Val d'Oise? C'est-à-dire que c'est...
Un chiffre.
Là, je vous donnerai pas de chiffre, mais il y a plus de visiteurs à Auvers-sur-Oise qu'à La Roche-Guyon, qu'à Auvers-sur-Oise, ou même qu'à Royaumont. Donc, c'est quelque chose qui est magnifique. Alors, c'est un château donc qui est géré par le département et par un conseil d'administration
donc vous avez rejoint le conseil d'administration, vous êtes administrateur depuis
je sais plus depuis
quelques années,
2 ans je pense, 2 ans. Ou 3 ans, oui. Et vraiment, c'est un très très beau château, d'abord par son architecture, mais aussi par toutes les manifestations qui se font à l'intérieur du château. Alors, il y en a une, moi, qui m'a marqué, c'est une exposition qui s'est appelée Action, pour, je sais pas si vous savez, mais Blake et Mortimer, donc qui est une célèbre bande dessinée. Il y a une BD, donc un album qui se passe au château de la Roche-Guyon.
Et donc dans les récents, moi je connais que les très vieux.
C'est un des plus vieux.
C'est un des plus vieux.
Oui, c'est le, je sais plus quel est le titre. C'est Machine Action, le titre de l'exposition, mais comment peut s'appeler l'album, je me souviens plus, bon peu importe. Et donc il se passe
Le secret de l'Espadon, mais c'est peut-être pas celui-là.
C'est dans celui dans lequel il y a le Chronos Caf. Donc il y a un voyage dans le temps où Mortimer et donc il y a eu une exposition avec les originaux des bandes dessinées de Jacobs.
Edgar Pete Jacobs.
Edgar Pete Jacobs, qui nous, dont la fondation nous a prêté tout un tas d'albums, de dessins, de notes de Jacobs. C'était vraiment et cette exposition donc est restée 6 mois dans les salles du château.
C'est un beau château, c'est des beaux projets.
Ouais. Et alors, il y a quelque chose que je veux, là encore, le château a besoin d'argent, donc si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas à le faire. Et il y a un théâtre du XVIIe siècle, à l'intérieur du château, qui est dans un état de délabrement avancé, parce qu'il n'y a pas eu d'argent depuis de nombreuses années, pour le restaurer.
Oui, c'est la gestion des priorités. Il y a eu tous les jardins qui ont été refaits pendant un certain nombre d'années.
Et
le potager.
Donc, on va, en 2023, commencer la restauration de ce théâtre. Et c'est vraiment, moi j'ai eu la chance d'aller le visiter, mais c'est fermé au public parce que c'est, à la limite, il pourrait y avoir des accidents. Mais c'est vraiment une pièce qui est d'une beauté.
C'est pas ouvert à des groupes uniquement, non ?
Non.
Même pas ?
Non, 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 là c'est totalement fermé. Donc voilà, je pense que vous avez fait le tour de mes nombreuses activités. Et je voudrais préciser que, évidemment, tout ceci est bénévole et que je ne comprends pas les pouvoirs publics qui ne favorisent pas plus le bénévolat.
Ah, le bénévolat. C'est quelque chose...
C'est un vaste sujet, mais
qui est un vaste sujet, mais qui est indispensable, oui. Et en particulier tout ce qui tourne autour comment dirais-je, du médico-social, où il y a énormément d'associations et qui fonctionnent avec des conseils d'administration de bénévoles.
Bénévoles, bien sûr.
Et qui remplit vraiment une mission. Depuis le début, on est sur le même thème de l'humain.
Oui.
Et on voit bien que tout cet aspect bénévolat, parce que pour beaucoup de choses, dans tout ce que vous avez dit et dans vos missions, c'est du bénévolat. Mmh. On se rend compte que il y a besoin d'investissement, surtout en temps. Et les besoins sont incommensurables. Mmh. On arrive au terme de cette émission. J'ai une dernière question en ce qui me concerne. C'est votre plus belle réussite.
Ça, c'est une question très difficile, parce que, à la limite, je pourrais en trouver plusieurs.
Justement, c'est pour ça qu'il faut en trouver une.
Je vais peut-être en donner deux. Une qui est évidente, c'est mes enfants. Parce que la famille, c'est une des plus belles réussites. Et donc, d'avoir des beaux enfants et des beaux petits-enfants, c'est quelque chose de magnifique. Donc, c'est une réussite qui n'est pas personnelle, puisque j'ai pas été tout seul là-dedans. Mais pour répondre à votre question dans le cadre de cette émission, à l'évidence, ma plus belle réussite, c'est Apeza. Là, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Toute l'action que j'ai pu mener au sein du tribunal de commerce, tout ce que j'ai pu faire à côté, n'est rien à côté de la fierté que j'ai d'avoir pu créer cet Apeza dans le Val d'Oise.
Ben, ça sera le mot de la conclusion. Merci Gérard Maury. Nous avons bien retenu cette humanité qu'il y a en vous et qui est, on voit bien que c'est le fil conducteur, c'est rendre d'une certaine manière ce que vous avez reçu et donner de votre temps, beaucoup de votre temps, parce qu'il ne doit pas rester grand-chose pour le reste avec tout ce que vous nous avez dit.
Si, je pourrais encore faire quelques petits trucs, il n'y a pas de souci.
Donc voilà, donc appel au peuple. Si vous avez besoin de Gérard Maury, n'hésitez pas, il est disponible. Et donc, merci à vous Gérard Maury. Merci à Francky pour la technique. Merci à vous tous qui nous suivez pour votre fidélité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Une émission que vous pourrez retrouver à tout moment avec son podcast sur IDFM 98.fr. Moi, je vous retrouve lundi en 15 pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Mais l'économie en direct, c'est aussi Jacqueline Voraz, tous les mardis et les vendredis. Belle journée, bonne semaine à tous.
Days like this. No one can fuck with me on days like this. my head up in the clouds. I'm done with holding on, 'cause I got that feeling that only comes on days like this.